Bonjour, vous écoutez les Minutes Linux. Aujourd'hui, nous allons parler de multimédia. Première partie, les applications GNOME. Salut, je suis Olivier, votre hôte pour ces quelques prochaines minutes. Durant la semaine, je suis passé dans plusieurs canaux IRC à la recherche d'informations sur le multimédia, mais aussi potentiellement sur des personnes qui pourraient compléter ce podcast. En effet, j'utilise Ubuntu Linux et GNOME principalement, et je ne connais plus les autres distributions, Fedora, OpenSUSE, Mandriva, mais aussi KDE que j'ai quasiment jamais utilisé, sauf peut-être la version 1, il y a très longtemps. C'est pour cela que le thème aujourd'hui, donc le multimédia, va être en deux parties. On va commencer par GNOME aujourd'hui, et la prochaine fois, je regarderai plutôt KDE, car j'ai besoin de me rafraîchir les neurones. Donc, si vous utilisez KDE, ou bien une autre distribution autre que Ubuntu, et que vous avez des choses à dire que je n'ai pas dites, eh bien, envoyez-moi un MP3, ou un GGVorbis, ou même un email, je le lirai, je compléterai ça dans le prochain podcast. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, donc le multimédia, je dois préciser deux choses, à savoir le type de paquets et d'archives qu'il existe sous Linux. Il y a grosso modo deux grands groupes de distributions. Elles ne sont pas seulement basées sur GNOME et KDE, mais aussi basées sur un système de paquets. Chaque logiciel et ses fichiers annexes sont englobés dans un seul fichier qui servira à l'installation. C'est l'équivalent des install.exe sous Windows ou bien des DMG sous Mac OS X. Avec les distributions Linux, nous avons soit les RPM, inventés par Red Hat et utilisés par Fedora, Mandriva et OpenSUSE, ou bien les DEB, inventés par Debian, et qui sont utilisés par, évidemment, Debian, et ainsi que toute la série Ubuntu et Mepis, et Dont, bien sûr. Et là, je rajoute aussi Emerge, utilisé par Gentoo. C'est une distribution que je n'ai pas mentionnée auparavant, car elle est réservée plutôt aux connaisseurs. Ce n'est pas le point de ce podcast, c'est-à-dire d'être très avancé, mais je la mentionne quand même, parce que si je ne la disais pas, on me ferait des remarques. Voilà, maintenant vous le savez. Donc, pour chaque distribution, il existe des paquets qui sont soit au format RPM, soit Debian. .deb. À chaque type de paquet correspond aussi un logiciel graphique qui permet de les installer. Pour ce qui est de GNOME, il y a Synaptix qui s'occupe des .deb. Pour les points RPM, vous avez Yum. Il y a aussi URPMI qui est utilisé par Mandriva. Il y a Yast aussi qui est sur OpenSUSE. Utilisez si possible tous ces logiciels graphiques si vous ne savez pas les commandes texte. Et dans la majorité des cas, j'essaierai d'utiliser bien sûr ces logiciels graphiques. Quand on parle de multimédia, on est obligé aussi de parler des formats de fichiers. Les distributions Linux sont basées sur des logiciels libres qui ne prennent pas en compte les formats propriétaires. Un format propriétaire, c'est grosso modo un format dont on ne sait pas comment il est fait, car le créateur ne veut pas qu'on le sache. Et donc, seul le créateur peut, s'il le veut, faire un programme capable de lire ses fichiers sur tel ou tel système d'exploitation. Un exemple concret est le format Flash, qui se trouve souvent dans les pages web. Le Flash est un format qui permet des animations. Il a été créé par Adobe Macromedia, et à part eux, personne ne peut faire de plugin complet qui permette de lire correctement toutes les animations Flash, que ça soit sous Windows, macOS ou même Linux. Et même avec un plugin Flash, suivant sa sous-version, vous n'aurez pas forcément le même résultat. Du moins, je l'ai remarqué au travail, car nous développons justement des applications Flash. Et de temps en temps, des fonctions disparaissent. On ne sait pas pourquoi, et personne n'est au courant. Aujourd'hui, Adobe Macromedia propose depuis moins d'un an la version 7 de Flash sous Linux, alors que la version 8 est déjà sortie depuis très longtemps sous Windows. Résultat, avec Linux, vous ne pouvez pas lire la majorité des animations Flash, qui sont forcément en 8, alors que nous sommes en 7. Et personne, sauf la volonté de Adobe Macromedia, n'y peut rien faire. Une autre possibilité pour créer des programmes capables de lire des fichiers codés, c'est de payer la licence à un format correspondant à une licence d'exploitation qui se monnaie. Et on peut comprendre que les créateurs de logiciels libres se refusent, normalement, de payer. C'est logique. Ainsi, sur une distribution fraîchement installée, vous ne pourrez pas lire les MP3, les AVI, les ASF, les WMV, les WMA, les MOV ou l'AAC. Bref, quasiment tout ce qui est utilisé sur les autres systèmes d'exploitation. Par contre, vous pourrez lire sans problème les MPEG vidéo, ce qui passe en fait à la télé, en streaming, Log4bis et le WAV. C'est assez réducteur, je vous l'avoue. Mais pas d'inquiétude, il y a de quoi changer cela. Comment ? En installant les codecs, qui ne sont pas installés par défaut. Quelle que soit la distribution, il existe un paquet qui se trouve dans les dépôts supplémentaires de la distribution. Je sais, c'est redondant. C'est le paquet W32 Codec, en un seul mot. Pour Ubuntu, il se trouve dans le dépôt Multiverse. Pour Fedora, si je ne me trompe pas, c'est dans le dépôt Extra. Utilisez donc Synaptic ou Yum ou Yast ou URPMI pour rechercher et installer ce paquet. Si vous ne le trouvez pas dans la liste, vous pouvez le télécharger directement sur le site de MPlayer, dans la rubrique Download. C'est un fichier de type tar.gz. Il doit être ensuite copié à la main, une fois téléchargé, dans le répertoire /usr/lib. Par exemple, téléchargez sur votre bureau, double-cliquez sur le fichier pour le désarchiver, sur le bureau aussi, disons. Un répertoire W32 codec sera créé. Ouvrez un terminal et tapez la commande SU pour vous rendre root. Entrez le mot de passe du root. Ensuite, tapez la commande cp espace -grand R espace desktop avec un D majuscule / W32 codec espace / USR / lib. J'explique. CP copie le répertoire demandé W32 codec vers le répertoire destination /usr/lib. Le -r dit qu'il est récursif, c'est-à-dire qu'il doit prendre tout ce qu'il y a aussi en dessous dans les répertoires mêmes. Il faut le faire en tant que root car vous sortez en fait de votre home, la partition home. Donc vous rentrez dans le système et vous avez besoin des droits root. Alors ne vous inquiétez pas. Cela ne concerne que les commandes que vous allez passer juste après la commande SU. SU signifie super utilisateur. Pour ceux qui ont Ubuntu, il n'y a pas de root. Attention. Donc pour copier le répertoire, pas la peine de taper SU. Rajoutez devant la commande CP sudo sudo avec un espace. Ensuite CP et tout le reste. Cette commande permet en fait de passer la commande qui suit, donc le CP, en tant que administrateur, en tant que root. Il vous demandera un mot de passe, c'est votre mot de passe, car il n'y a pas de mot de passe root. Voilà, vous avez installé les codecs, il n'y a pas besoin de redémarrer l'ordinateur, c'est direct. Ces codecs sont valables aussi bien pour GNOME que pour KDE, quel que soit le logiciel. Tant qu'on y est, avec les codecs, de nombreux programmes utilisent GStreamer. C'est une sorte d'interface entre le programme et la carte son elle-même. Il existe aussi des codecs pour GStreamer. Cherchez donc les paquets GStreamer FF, MPEG, Fluendo, PitDLL, Bad, Good et Ugly. Tout ça vous permettra aussi de lire plein de formats. Bon, avec tous ces codecs, vous êtes prêts à voir le dossier. Nous allons d'abord écouter de la musique. GNOME vient avec, dans le menu applications, son et vidéo, le programme Rhythmbox. C'est l'équivalent de Windows Media Player ou de iTunes pour votre bibliothèque musicale. Au premier lancement, il vous demandera justement où se trouve le répertoire avec tous vos morceaux de musique, quels qu'ils soient. Notez que les morceaux protégés par DRM ne peuvent pas être lus car il n'existe pas de programme de gestion des droits sous Linux. Aucun major n'en a fait, tout simplement. Écouter de la musique ayant des DRM est de fait illégal, car vous contournerez la protection. Si vous avez un iPod, Rhythmbox le reconnaîtra et vous pourrez jouer les morceaux de votre iPod depuis votre distribution Linux. Et encore mieux, si vous avez installé la version Linux de Bonjour, qui s'appelle aussi ZeroConf, vous pourrez aussi partager votre musique avec les Macintosh de votre réseau. iTunes Mac verra votre bibliothèque et votre iPod et pourra jouer chez eux la musique que vous possédez. Rhythmbox est un gestionnaire de bibliothèque. Personnellement, je n'ai pas de bibliothèque que je puisse dire et que j'écoute. Rhythmbox ne me convient pas trop. J'écoute parfois des morceaux, un ou deux, MP3, et je n'ai pas envie de lancer ce logiciel pour ajouter juste ces deux MP3 que j'effacerai certainement 2 minutes après. Pour écouter ponctuellement de la musique, j'utilise en fait le lecteur vidéo Totem. Totem utilise GStreamer, qui sait lire aussi bien la vidéo que la musique. Donc je l'utilise. Si vous voulez un gestionnaire plus avancé, tout le monde s'accorde à dire que Amarok est le meilleur. Mais j'en parlerai dans un prochain épisode, car c'est un logiciel KDE. Si vous avez un iPod, cherchez le programme GTKPod ou GTKPod-AAC. Ce dernier gère aussi donc l'AAC. C'est un gestionnaire d'iPod tel que iTunes, Leap, sous Windows ou Mac, mais sans l'interface. Ce qui est une interface plutôt, évidemment, GNOME et GTK. Vous pourrez ainsi copier, renommer les morceaux de votre iPod, les listes de lecture, etc. Et même vous pourrez copier les morceaux de l'iPod vers votre ordinateur. Il existe aussi XMMS, c'est l'équivalent de Winamp pour Windows. XMMS est un vieux programme qui utilise encore l'ancienne interface de GNOME. Si vous l'installez, vous verrez que les menus sont écrits très gros et que la police de caractère n'est pas lissée, comme en GTK 2 aujourd'hui. Un projet utilisant la nouvelle interface de GNOME est sorti par un nouveau groupe, car les développeurs de XMMS ne veulent pas mettre à jour le programme. C'est BIP Media Player, BMP. Il est entièrement compatible avec XMMS, les plugins et les skins, mais utilise le nouveau moteur d'affichage. D'ailleurs, XMMS était très connu pour ses nombreux plugins et skins, tels que d'ailleurs ceux de Winamp. Après le son, la vidéo. Totem GStreamer est le lecteur par défaut des vidéos. Grâce au codec installé, vous pourrez lire quasiment tous les formats, sauf certains formats Windows Media Video et Windows Media Audio, WFMV, WMA, car ils sont protégés par Windows. Si Totem n'arrive pas à lire une vidéo, je vous conseille d'installer VLC. C'est un tout petit programme qui sait quasiment tout lire. Mieux que Totem et sans plugin. Il existe aussi MPlayer, qui est un lecteur vidéo très puissant, presque autant que VLC, ou autant que VLC, à voir. VLC existe d'ailleurs aussi pour Windows. Et je le conseille si vous ne voulez pas utiliser Windows Media Player. Une note concernant les fichiers venant des Mac. Les Mac encodent actuellement leurs vidéos au format H264, qui est une mise à jour du format H263. Or, aujourd'hui, ce format H264 n'a pas de codec sous Linux. Il est vraiment tout nouveau. Et seuls les Mac savent l'encoder et le jouer. MPlayer et VLC ne savent pas lire encore ce format, ou très très mal. J'ai testé. Je suppose que vous voudrez lire aussi des DVD sur votre Linux. Attention, depuis le 4 août 2006, une nouvelle loi, la loi DATFC, interdit cela. En effet, un DVD possède une piste vidéo qui est cryptée. Il ne peut être décrypté qu'avec la puce ou le logiciel qui se trouve dans votre lecteur DVD de salon, ou dans le logiciel Windows ou Mac. La lecture est donc impossible sous Linux. Certes, le programme existe, c'est une bibliothèque, mais il contourne la protection contenue. Ce programme est d'ailleurs interdit aux USA aussi. Je vais donc pas vous dire comment on fait pour lire le DVD, sinon je deviendrai hors la loi. C'est pas cool ça? Il y a un petit truc avant de finir. Si vous n'entendez pas de son dans vos haut-parleurs, vérifiez le volume général de Gnome. Je sais, parfois c'est très bête, des fois il peut être à zéro. Le volume général se trouve à côté de l'horloge. Vérifiez aussi, s'il n'y a toujours pas de son, le volume PCM du contrôleur de volume. Il suffit que vous cliquiez sur le bouton droit sur le haut-parleur et vous avez dans le menu ouvrir le contrôleur de volume. Une fenêtre s'ouvre et vous avez plusieurs potentiomètres dont le volume PCM, c'est le volume par défaut du son sous Gnome. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère ne rien avoir oublié concernant Gnome. Si oui, n'hésitez pas à me contacter, tous les liens se trouvent sur le site. La prochaine fois, j'aborderai les logiciels qui sont utilisés sur KDE. Questions, commentaires, notes ou un simple bonjour, vous pouvez envoyer tout cela par courrier électronique à minute au pluriel linux at podmiel.info. La version texte de ce podcast est disponible sur le site http://minutelinux.podmiel.info. Vous pouvez vous abonner au podcast à l'adresse http://minutelinux.podmiel.info/podcast. À très bientôt. Les musiques de ce podcast sont issues du site archive.org. L'auteur est Elysis, E-L-Y-S-I-S. Vous avez écouté Harmonicy, Monodiver, Shiva Dubs.